ça quand on joue au football. Là, moi, j'étais dans le centre. Là, j'ai joué différentes positions, bloqueur, corps arrière, dans défense. Et il se dit, si vous saviez tout ce qu'il se dit, quand tu es penché, tu te prépares à foncer, là, il va y avoir des paroles blessantes qui vont se dire ce soir. L'amertume, la fureur, la colère, criage, calomnie, la méchanceté, ça, tout va y passer. Là. Mais c'est correct. Hein? Super Bowl, on s'attend à ça. C'est correct. Mais mets les mêmes ingrédients. Mets les mêmes ingrédients dans une relation. Dans une relation de travail, dans les relations avec des gens qui sont proches, le voisinage et tout ça. Mets exactement les mêmes ingrédients dans une relation de couple, par exemple. Et là, tout d'un coup, ça devient comme une bombe monotone. Ça devient comme toxique. C'est même, ça peut s'escalader et ça peut commencer à avoir de la colère. Ça peut même être dangereux. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais 18 ans, peut-être 17 ou 18 ans, je sortais avec une fille. Je fréquentais une fille, son père était dans la pègre. Et grosse pègre, là, c'est vraiment comme tu vois à la télévision. Là, c'est le gun tout le temps dans la voiture. Puis il était propriétaire d'un club de tanseuses et tout ça. Il y avait toutes sortes d'affaires, du vol, c'était tout des complots et tout ça. Là. Et un de ses fils, ils étaient plusieurs enfants, je pense qu'ils avaient 6 enfants, si ma mémoire est bonne. Et le monsieur était très, très, très agressif, violent. Ah, il battait sa femme à coups de pied, là. C'était épouvantable, je vous dis. Tout le monde avait peur dans le quartier. Ils étaient très connus parce que les enfants venaient à l'école au secondaire, avec la même école que moi, tout ça. Alors tout le monde les connaissait. C'était épouvantable. Là. Moi, j'ai déjà été là et puis il fallait que tous les enfants se taisent quand le père rentrait dans la maison. Tout le monde était assis, puis t'entendais ça en haut. C'était épouvantable. Là. C'était des coups de pied, la femme couchée à terre, coups de pied dans le cou. C'était affreux. Là. Même son fils qui a vieilli, à un moment donné, il a voulu tuer son père. Il a pris un 12, il a tiré sur son père dans la maison. Il l'a manqué, la porte est partie à revoler. C'était des histoires de même, tu entendais ça régulièrement. Là. Et moi, je m'étais lié d'amitié avec lui, son fils, et sa fille, évidemment, que je fréquentais. Mêlé à tout ça, là, et c'était vraiment pas rose. Disons que c'était pas ma meilleure année. En tout cas, un jour, j'étais avec son fils, qui était mon copain, et puis on s'est retrouvés dans le logement de sa copine. Les deux restaient ensemble. Lui, il a été élevé là-dedans, là, ce gars-là. Alors, lui, dans ses fréquentations, évidemment, c'était comme s'il reproduisait ce qu'il avait vu depuis qu'il était jeune. T'sais. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas personne qui était chrétien dans ça, là, moi non plus. Et là, j'étais assis dans la cuisine, et là, d'un coup, le fils de ce monsieur-là, qui fréquentait sa blonde, sa copine, qui était là dans le logement. Moi, j'étais là. Et là, le gars voulait sortir avec moi ce soir-là. Il voulait aller comme dans un club et tout ça. Et là, sa copine disait, « Non, reste avec moi. Reste-donc avec moi ce soir. Là, tu sors tout le temps là, avec tes chums et tout ça. Reste-donc avec moi. » Là, ça s'est escaladé. Là, j'étais là, moi. Là, ça s'escalade et tout ça. Puis à un moment donné, là, ça se criait. Puis ah, c'était épouvantable. Là, ça criait. À un moment donné, la colère, quand ça monte, là, ça criait, là, les menaces commençaient. Et là, tout d'un coup, la fille, elle dit, si tu t'en vas, je me coupe les veines, je me tue. Là, t'es jeune, puis tu dis, non, ça ne doit pas être sérieux, ça, là, etc. Là, puis là, il dit, tiens, je veux rien savoir, viens-t'en, Normand. Il sort, il claque la porte. Là, je suis là dans le logement, elle est là. Elle prend un couteau à pain, des grosses lames comme ça, là, gros couteau à pain, là. Elle dit, tu vas voir. T'sais, puis là, comme de fait, à 3 pieds de moi, elle prend le couteau, chlaou, elle se coupe les deux poignets comme ça, le sang part à voler partout. Là, je pars à courir, je saute sur elle, je la prends, je l'emmène dans la toilette, le sang, ça coulait, essayer de contrôler ça. Et c'était épouvantable. Et c'est la colère qui est mal gérée, qui s'escalade et tout ça. Puis il y a deux extrêmes avec la colère. La colère, tu peux aller d'un côté, d'un extrême, où ça fait comme ça, ça l'escalade, puis c'est le gros criage, puis ça, c'est épouvantable, c'est pas contrôlé. Comme ça peut aussi être l'autre côté où tu dis pas un mot, puis tu accumules tout ça en dedans, puis ça devient une boule tellement forte, là, tu te rends malade, tu refoules ta colère. Alors, les deux extrêmes sont pas bons. Comment tu fais? Alors, c'est la colère mal gérée, là, c'est vraiment toxique, c'est dangereux. Eh bien, on va regarder ça ce matin. On va regarder, pas juste la colère, on va regarder certains principes. entre autres, la colère. Comment arrêter toutes ces choses? On a vu une liste ce matin, une liste de choses, de mensonges, des paroles blessantes et tout ça. Comment t'arrêtes ça? Comment tu contrôles ça? Comment tu fais pour bien gérer la colère? Alors, la réponse traditionnelle qu'on entend, c'est qu'on va nous dire, alors que ce soit n'importe qui, chrétien ou pas, les gens vont nous dire tout simplement, bien, fais-les pas, c'est pas bon. Si tu demandes à un athée, pourquoi pas voler? Il va dire, non, c'est mal ça. Alors, des religions dans le monde, il ne faut pas compter de menterie, faut pas compter de mensonges et tout ça, c'est mal. Alors, ça c'est ce qu'on va nous dire. C'est ça la motivation, c'est mal. Alors, c'est la société qui décide c'est quoi qui est mal, ce qui est bien, tout ça. Alors, ça, c'est la réponse traditionnelle. Mais la Bible va beaucoup plus loin. La parole de Dieu va aller plus loin. Premièrement, tout d'abord, la Bible va définir le mal. Elle va dire non seulement c'est quoi le bien, mais elle va dire aussi c'est quoi le mal. Elle va le définir. Et même aujourd'hui, avec notre société qui est très moderne, qu'on vit dans un temps très moderne, et il y a des changements, des inventions qui se font, même là, les domaines où la Bible n'adresse pas explicitement, on va le voir dans les Écritures. On va avoir assez de principes dans les Écritures pour savoir finalement être capable de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible ajoute un autre élément aussi qu'on n'a pas dans la société, c'est que le mal est ultimement contre Dieu, et c'est ce que la Bible appelle le péché. La Bible va plus loin encore que la société. La Bible ajoute que le mal est ultimement une offense contre Dieu, et c'est contre la volonté de Dieu, et c'est pour ça que la Bible appelle ça le péché. Il y a un autre élément aussi que la Bible va ajouter. La Bible ajoute que Dieu nous a créés avec un mécanisme en dedans qui s'appelle la conscience. Et ce mécanisme-là, il y a une alarme qui est greffée après, qui nous pointe le doigt lorsqu'on fait le mal. Et c'est quoi ça? C'est la culpabilité. La culpabilité qui est une alarme qui te dit, « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est pas correct, là. » Et il va falloir que tu fasses des changements, là. Tu changes de route, tu changes de voie, là. Mais est-ce que la culpabilité est suffisante pour nous aider à changer? Parfois, oui. Parfois, la culpabilité peut nous inciter à prendre un autre chemin, ce que la Bible va appeler la repentance. Oui. Parce que la culpabilité peut être assez écrasante, parfois. Dieu va se servir de la culpabilité. Après tout, le but de la culpabilité est de nous avertir quelque chose qui ne marche pas bien, là. C'est une alarme, c'est un son de cloche pour nous dire, écoute, il y a des affaires, tu as besoin de faire des changements, là. Mais tu peux l'étouffer. C'est comme une alarme le matin quand ça sonne. Hein, tu peux l'éteindre pour commencer à te dormir, continuer à dormir, te recoucher, ou tu peux te lever. Alors, est-ce que la culpabilité est suffisante pour me motiver et m'inciter à changer? Maintenant, je parle évidemment de la bonne culpabilité, parce qu'on peut avoir la mauvaise culpabilité. On peut avoir réglé toutes les affaires, puis tout ça, puis on se sent encore coupable. Alors ça, c'est la mauvaise culpabilité, la culpabilité qui est malsaine. On ne parle pas de ça, là. On parle de la bonne culpabilité, là. Alors, le passage que nous voulons regarder ce matin va nous donner une grande motivation, une grande inspiration pour changer. Et d'ailleurs, ce qu'on voit depuis quelques semaines aussi, c'est ça, c'est que on n'est pas parfait. Quand on devient chrétien, on va continuer à faire des péchés, à faire le mal. Notre passé nous suit parfois. Des vieux péchés qui vont revenir, auxquels on ne s'attendait pas, et puis ça devient encore une tentation et parfois on peut tomber dans ces fâcheuses habitudes qu'on avait dans le passé. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que la Bible nous demande, la Bible nous invite à changer, à grandir et à devenir de plus en plus comme le modèle parfait, finalement, l'excellence qui est Jésus-Christ. Donc, on va lire un passage ce matin qui va nous donner toute une motivation pour changer. Et ça se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. On va lire, c'est pas un gros passage, mais on va lire les versets 25 et on va se rendre jusqu'au verset 32. Alors, Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Maintenant, ce passage parle d'un paquet de choses, mon ami. On pourrait s'arrêter. Chacun des domaines que Paul va traiter, on pourrait en faire une série de messages. On parle de l'honnêteté au travail. Oui, parce que quand on parle de vol, on parle de deux choses. On parle du vol en général, mais on parle aussi du travail, voler au travail. On parle de l'honnêteté. Et c'est toute une grande question, ça, aujourd'hui. On parle des milliards de dollars. Je pense que cette semaine, j'ai vu des statistiques sur des milliards, là, tout l'argent qui est en dessous de la table qu'on ne voit jamais et le fils ne voit pas et tout ça. Alors, l'honnêteté au travail. On parle du travail comme tel. Il y a même un livre qui a été écrit par Tim Keller sur le travail. Et puis, au complet, sur le travail. Comment on travaille comme chrétien? C'est quoi l'éthique au travail? Donc, c'est un domaine. Ça. On parle de l'aide sociale. Et bon sang, des livres qui ont été écrits là-dessus, plusieurs entrevues qui ont été faites, plusieurs entrevues qui ont été accordées sur YouTube. Tu peux voir juste cette question-là de l'aide sociale. C'est toute une question aujourd'hui d'aider les personnes qui sont démunies, qui ont besoin d'aide. On peut regarder toute la question de la communication. On regarde l'amertume, le pardon. Paul parle d'un tas de choses là-dedans. C'est comme un complexe, une série de sujets. Mais derrière tout ça, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur là, qui tient tout ça en place, puis on a commencé à le voir à partir du chapitre 4. Comment grandir pour que l'on devienne meilleur de plus en plus comme Jésus-Christ? Alors, c'est ça que Paul est en train de traiter derrière toutes ces choses-là, tous ces éléments-là. Il est en train de nous montrer, à partir depuis le début du chapitre 4, comment changer, comment grandir. D'ailleurs, regardez le verset 25, comment ça commence. Il y a une petite expression qu'on appelle une conjonction de conséquences. C'est ce que nous voyons au début du verset 25. C'est pourquoi. C'est pourquoi. En autre mot, ce que Paul est en train de faire avec cette petite conjonction-là, il est en train de lier ce qui va suivre à ce qui précède. Alors, tout ce que je viens de vous dire, dit Paul, dans le fond, il est en train de nous dire ça, tout ce que je viens de vous dire se rattache à ce que je m'apprête à vous dire ici, dans le passage. Donc, il faut voir tous ces éléments-là qu'on a vus tantôt. Alors que ce soit le vol, le mensonge, les paroles mauvaises et tout ça qui blessent, les paroles blessantes, tout ça, il faut le voir dans le contexte de ce qu'il vient d'être dit depuis le chapitre 4 qu'on a commencé à voir dernièrement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Paul est en train de nous montrer comment changer, comment justement devenir meilleur et ressembler davantage à Jésus-Christ. On a vu ça la semaine dernière. Et qu'est-ce que Paul a dit? Il nous a dit, il faut se mettre sur son 36. En d'autres mots, il faut se débarrasser de ton vieux linge, de ta vieille façon de vivre, ton ancienne vie. Tu es une nouvelle personne maintenant que tu es en Jésus-Christ. Tu as une nouvelle identité, tu n'es plus le même. Alors, débarrasse-toi de ton vieux linge, c'est-à-dire la désobéissance, le péché, tes anciennes habitudes. Débarrasse-toi de ça. Porte maintenant le neuf. C'est le nouvel homme. Cette nouvelle identité vit selon ta nouvelle identité, qui tu es maintenant en Jésus-Christ. D'accord? Ça, on a vu ça la semaine dernière. Débarrasse-toi du vieux, qui est la désobéissance, le péché. Porte le neuf, qui est la sainteté et l'obéissance. En raison de qui tu es, tu n'es pas n'importe qui, tu es une nouvelle personne maintenant que tu es en Jésus-Christ. Et on l'a dit depuis le début, 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création, c'est une nouvelle personne, tu n'es plus le même du tout. Tu n'es plus le même. Donc, vis selon ce que tu es maintenant. Alors ça, c'est toute une grande motivation que nous avons. Est-ce que Paul est en train de nous enseigner? C'est ici. Maintenant, à partir du verset 25, ce qu'il va faire, le passage que nous avons lu tantôt, ce que Paul va faire, il va nous montrer concrètement, il s'en vient pratico-pratique, il va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ça, se débarrasser du vieux linge et porter le nouveau linge. Mettre de côté ton ancienne vie, tes anciennes habitudes et tout ça, et commencer une nouvelle chose. Être un nouvel homme. D'accord? Quelqu'un a demandé, il dit, ouais, mais ça veut dire est-ce qu'il faut changer de métier? Ça veut dire qu'il faut changer de job? C'est quoi que tu es en train de dire? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Tu continues ta job. C'est étonnant, c'est correct, là. C'est ta job, c'est voleur de banque. Non, peut-être que tu pourrais penser à ça. Pas tout à fait la bonne. Non, c'est pas tout à fait bon. Mais tu sais, quelqu'un. En d'autres mots, tu fais de la pêche. Parce que le chrétien, lui, est-ce qu'il fait de la pêche? Est-ce que c'est différent un chrétien qui fait de la pêche? Hein? Quelqu'un va dire, ben là, tu peux prier, peut-être tu vas attraper plus de poissons. Peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être pas, je ne sais, aucune espèce d'idée. Oui, ok, ça marche, ok, bon. Fait que, je ne sais pas. Mais sais-tu que même faire de la pêche, c'est différent chez le chrétien? Là, t'en mets pas mal, là, c'est ça que tu vas me dire. Là, je trouve que tu exagères un peu. Non, j'exagère pas. Non. Quand tu vas faire la pêche, puis tu lances la ligne, tu vois la beauté de la nature, qu'est-ce que toi, tu vas faire que le non-chrétien ne fera pas? Eh, Seigneur, je te loue pour la beauté. Vois-tu? T'es même pas... Même le pêcheur ne pêche pas pareil. Parce que t'es une nouvelle personne. T'es même plus la même personne. On n'entre pas dans la chasse, ça c'est un autre domaine. Là. Ça c'est comme difficile à... Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Ouais, ça c'est correct. Allez voir Gaétan, il y a toute réponse, il va vous montrer ça qu'il va dire là-dedans. Bon, moi je garde les questions faciles, puis j'envoie les questions difficiles à Gaétan. On s'entend Gaétan, c'est correct? À partir du verset 25, Paul, ce qu'il va faire, il va donner un paquet de scénarios là. C'est des études de cas. Il va nous montrer des situations de la vie. Puis il ne couvre pas tout. Il va même en toucher d'autres à Dieu, chapitre 5. Il va même parler de la sexualité. Il va nous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, ça. Fais-moi un portrait, là. Il va nous montrer, voici ce que ça a de l'air, une nouvelle personne. Ça a l'air porter un linge neuf, d'accord? Alors là, tu vas avoir deux. Il va nous donner un tableau. Puis le tableau qu'il bâtit, c'est ceci. Garde ton vieux linge, que ça a de l'air. C'est ça, c'est le mensonge, vol, parole décente, amertume, fureur, colère, criage et tout ça. Maintenant, ton linge neuf, qu'est-ce que ça a de l'air? C'est qu'au lieu de voler, de compter des mentries et tout ça, tu vas dire la vérité. C'est ça que ça a de l'air, ton linge neuf. C'est qu'au lieu de mentir, dis la vérité. Au lieu de faire des vols et tout ça, travaille honnêtement, puis non seulement ça, sois généreux avec le surplus que tu vas faire, donne, aide des personnes qui sont démunies, tout ça. Bonne parole, des paroles édifiantes. Encourageante. C'est ça, porter le linge neuf. Quand tu donnes des paroles blessantes et que tu es méchant, etc., là, tu portes ton vieux linge. Quand tu es gentil, plein de compassion, plein de douceur, puis lorsque tu fais attention, tu cherches à communiquer une grâce, quand tu communiques, là, tu portes ton linge neuf. Là, tu portes ton linge neuf. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Là, je vois déjà des couples en chicane, puis qui vont dire, c'est ça, hein? Tu portes ton vieux linge aujourd'hui? Je vois déjà ça. Alors, on n'aura pas le temps de voir tous ces éléments-là, évidemment, on n'aura pas le temps de voir les paroles baissantes et tout ça, les communications. Tout ça. Mais on va en prendre un, on va prendre la colère, juste pour vous montrer que ça a l'air, c'est comment on met ça en pratique, qu'est-ce que Paul est en train de faire dans le contexte, d'accord? On prend la colère, on passe à travers, comment tu gères ça? Lorsque tu te mets en colère, parce qu'il y a des saines colères, c'est sûr. Alors, maintenant, il y a des mauvaises colères, il y a des colères, des choses qui nous mettent en colère, évidemment. Mais il dit, pêche pas quand tu te mets en colère. Alors, comment tu fais ça? Donc, on va prendre les principes que Paul est en train de glisser ici, puis on va l'appliquer ici avec la colère. On va en prendre juste un, mais c'est applicable. On peut prendre le même principe et l'appliquer dans tous les domaines. OK? Prends la colère. Parce que ça nous arrive rarement, on va prendre juste la colère parce que c'est tellement... Alors, verset 26, voici ce que Paul est en train de dire. Il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez aucune place au diable. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enlever son vieux linge et porter le neuf avec la question de la colère. Maintenant, si je refoule la colère, c'est pas bon. Si j'éclate la colère, je la fais sortir, je détruis tout, là. On commence à se pitcher des affaires dans la maison, ça c'est pas mieux non plus. Les deux extrêmes sont pas bons. Alors, comment un enfant de Dieu gère sa colère? Alors, la façon de bien gérer sa colère, c'est pas simplement en se disant, et ça c'est la société qui fait ça, va dire ça, et bien des gens, même nous autres, c'est pas juste en se disant, mets-toi pas en colère, c'est pas bien. Ouais, mais ça, c'est pas une grosse motivation, là. Ah, c'est pas bien. On va peut-être tomber malade. Ah, OK, ouais, ça, c'est un peu plus de motivation. Ouais, c'est vrai, on fait du stress, tout ça, là, mais. La façon de vaincre la colère, c'est en se rappelant qui on est. D'accord? C'est mettre l'homme nouveau. On se rappelle notre position. On se rappelle notre nouvelle identité. La façon de faire fondre la colère, c'est en se mettant sur son 36, comme on l'a vu la semaine dernière. On porte notre linge neuf, c'est-à-dire on porte l'homme nouveau. On gère sa colère en se parlant, en se prêchant. Vous êtes tous des prédicateurs. Tous des prédicateurs ici. Puis même, soyons honnêtes, là, vous parlez, là. Tu sais, cette petite voix-là, des fois, tu te parles, tu te dis, ah non, je ne sais pas si j'aurais fait ça. Ah, est-ce que, t'es un prédicateur. Là. Tu ne le veux pas, là. On est tous des prédicateurs. On se prêche. On se parle régulièrement. Et on a des grosses conversations avec nous-mêmes. Là, ils vont appeler ça le dialogue intérieur. On se parle. Mais sais-tu quoi? Quand tu es en colère, parle-toi. Prêche-toi. Parle-toi. Prêche pas à l'autre. Moi, je fais ça souvent. Prêcher à ma femme. Pas trop bon. T'sais, non, je te le dis, ça marche pas trop. C'est pas super. Faut apprendre à se prêcher nous-mêmes. Prêche-toi. Puis tu te prêches quoi? C'est quoi ton sermon? C'est quoi ton message que tu vas te donner? C'est justement ce qu'on est en train de voir, c'est l'Évangile. C'est ça qu'on est en train de voir ici. On gère la colère en se prêchant. Maintenant, parfois, on va avoir le goût de faire mal à l'autre. Parce qu'elle nous a fait du mal, elle nous a blessé, elle nous a fait du mal, puis là, il y a de la colère en nous. Puis on dirait que c'est encore pire quand l'autre ne le voit pas. Tu sais, tu es en couple, puis tu es en chicane, puis tout ça. Puis, ah, tu m'as dit ça, tu n'es pas correct, tu m'as dit ça. Hein? Quoi? Je me dis ça? Ah, ben là, et là, ça monte. Oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Et puis, tu sais, c'est comme, et là, ça monte encore. On dirait que c'est encore pire dans ce temps-là. Ça monte, hein? Alors, parfois, on a le goût de faire mal à l'autre personne parce qu'elle nous a fait mal à bon sens. Mais à ce moment-là, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Prêche-toi. Parle-toi. Et voici comment un enfant de Dieu gère sa colère. Voici ton sermon que tu vas te donner. OK? Il y a juste un point, fait que ça ne sera pas long, ça ne sera pas 45 minutes, juste un point. Voici ton sermon. Voici le sermon que tu te fais. Et tu dis, je ne peux pas me venger. Ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas y faire du mal. Car si Dieu avait déchaîné sa colère sur moi pour tout ce que je lui ai fait, moi je serais fini puis je serais perdu. C'est ça ton sermon, d'accord? C'est ça, tu te prêches ça. Tu te parles, tu dis, ça n'a pas de bon sens que je lui fasse du mal parce que quand je pense à tout le mal que j'ai fait à Dieu, comment j'ai violé sa parole et qui était en droit vraiment de me punir, puis il ne l'a pas fait. Là, je ne peux pas faire ça. J'ai mis Dieu en colère à cause de mon péché, mais il a détourné sa colère de sur moi. Il a fait éclater sa colère sur Jésus-Christ sur la croix. Au lieu de déverser sa colère sur moi, regardez bien ce qu'il a fait, Dieu s'est servi de sa colère pour détruire ce qui me détruisait. Êtes-vous d'accord avec ça? Le péché. En passant, c'est ce que nous voulons faire aussi dans l'éducation avec nos enfants. Oui. J'y arrive, tu vas voir, j'y arrive, oui. Effectivement, ça c'est une sainte colère. Colère tout à fait sainte. Il y a une raison pour ça. Maintenant, il faut s'arrêter sur la colère de Dieu ici. Dieu est en droit de se mettre en colère contre nous en raison de notre péché. La doctrine de la colère de Dieu est une doctrine très importante dans les Écritures. On ne peut pas la négliger. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, parler de la colère de Dieu, pensent que Dieu est injuste. C'est tout à fait le contraire. Si on ne s'arrête pas à la colère de Dieu, à la doctrine de la colère de Dieu, qui est une réalité dans les Écritures saintes, si on ne s'arrête pas ça, on va commencer à traiter la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu à bon marché, comme si ça ne valait pas grand-chose. C'est dans la mesure où je comprends la colère de Dieu que je vais réaliser la beauté de l'Évangile. Vois-tu? Et la colère de Dieu est un thème qui revient très souvent dans les Écritures. Juste en Ancien Testament, par exemple, il y a au-delà de 20 mots différents juste pour décrire la colère de Dieu. On va en parler plus de 600 fois dans l'Ancien Testament. Même, on va parler plus souvent dans la Bible de la colère de Dieu que de la grâce, de l'amour et de la bonté de Dieu. Même Jésus, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, qui est reconnu pour être la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, l'ère de la grâce, même Jésus en a parlé au-delà de 25 fois. Même dans le passage que nous sommes en train de lire, juste le chapitre plus loin, à Éphésiens 5, voici ce que ça dit. Ça dit « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur des hommes rebelles. » Vous serez peut-être surpris d'apprendre comment la colère de Dieu va revenir très souvent dans les Écritures. Maintenant, et j'arrive à la réponse ici, on s'entend que la colère de Dieu est parfaite. On s'entend qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'égoïsme et d'orgueil dans cette colère-là. Il n'y a pas aucune parcelle d'injustice ou d'agenda. On s'entend que la colère de Dieu, elle est parfaitement sainte et pleinement juste. D'accord? Ce qui justifie absolument Jésus lorsqu'il rentre dans le temple et fait le ménage. Absolument, parce qu'ils ont c'est une colère qui est pure. Pur. Et Dieu va, temps en temps, juste pour nous rappeler, regarde, je suis le même Dieu, je n'ai pas changé, on voit ça dans Actes 5, deux menteries, puis fou, fini, hein? Deux personnes sont mortes, là, parce qu'il avait compté deux mensonges. Et Dieu est en train juste de fermer le rideau et de dire, regarde, je suis toujours le même Dieu, toujours le même, je suis saint, là. Alors, oui, Dieu est parfaitement saint et il est en droit d'agir avec justice ou avec grâce, ça lui appartient. Mais il a choisi de déverser sa colère sur son propre fils. Puis il y a tellement de choses qui se passent en coulisses, alors que Dieu voit tout. Quand on pense à ça, que Dieu voit absolument tout. Moi lundi, là, j'étais assis, j'ai pris un café lundi matin, puis j'ai regardé quelques minutes là, la commission Charbonneau. Puis, tu regardes ça, puis tu regardes, puis tu sais, il y a des bonnes réponses. Tu vois tous les avocats, chacun de leur bord, puis ça donne des réponses, puis tout ça, tu sais, puis... C'est comme, qui dit vrai? T'es là, t'étais pas là. Là, ils ont piégé, ils ont réussi à prendre des enregistrements, tout ça. Ils essaient de, dans le fond, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de faire sortir la vérité. Mais on voit pas tout, on n'est pas omniscient, on n'est pas omniprésent, on voit pas tout. Mais Dieu voit tout. Dieu voit absolument tout. C'est incroyable, toutes les crocheries qu'il y a en coulisses partout dans le monde. Écoutez, moi, j'ai travaillé un an dans le domaine de la crème glacée. Y a-t-il quelque chose de plus? La crème glacée. Là, moi, j'ai travaillé là un an, donc j'ai appris des affaires. J'ai appris des affaires sur l'industrie de la crème glacée. Là, je vais faire attention, je nommerai pas de nom parce qu'on va me faire poursuivre. Hein, je suis fait à l'heure, je vais perdre ma maison puis mon 2,95 à la banque. Là. Je vais pas faire ça. Fait que là, je vais faire bien attention, d'accord? Quand j'étais dans cette année-là que j'ai travaillé dans l'industrie de la crème glacée, j'ai découvert une chose, c'est que pour avoir le droit... Bon, il y a le droit d'appeler ça de la crème glacée. Officiellement, légalement, que tu mettes le nom crème glacée dessus, ça prend un minimum de 8 grammes de matière grasse. Ça veut dire du beurre. Ça coûte cher, du beurre. Ça vient de partout à travers le monde. Tu as Hollande, des bateaux qui viennent. Ça prend 3 mois de l'hiver. Ah, c'est épouvantable. Hey, on recevait ça, nous autres, des caisses de beurre, littéralement. Là. Et ça, c'est la qualité de la crème glacée. Tu veux mesurer la qualité de la crème glacée, c'est la quantité de matière grasse qu'il y a dedans. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on parle de matière grasse, on fait attention à notre cœur et tout ça. Non, mais la qualité de la crème glacée, ça se mesure avec la quantité de gras qu'il y a dedans. Par exemple, la standard, habituellement, tu vas avoir à peu près 8 grammes, 10 grammes de matière grasse. Là, tu as une compagnie qui a décidé d'aller de l'autre côté, là, qui s'appelle Häagen-Dazs. Les autres sont allés à l'autre bord, complètement. Complètement là. Et je pense que c'est 17% de matière grasse. Tu prends une crème glacée Häagen-Dazs. Tu prends ça comme ça. Là. Tu laisses fondre sur le comptoir pendant 8 heures. Tu la laisses fondre. OK? C'est fondu. C'est pour être liquide. Tu mets une cuillère dans le milieu, elle va rester comme ça. Il y en a-tu du gras là-dedans? Ça ne bouge pas, là. Et ça, c'est la qualité. Ah, ça, c'est... Ah, mon ami. J'ai faim. On ferme tout ça là, on s'en va. Mais imaginez, là, il y a un gars là, qui est à 6 maths, tu sais, ingénieux au mal. Il y a un gars qui a pensé à quelque part, je ne vous nommerai pas le nom et tout ça, là, mais il y a une compagnie, il dit, « Hey, écoute, il faut être légal, Donc, ça prend 8 % ça a peut-être changé, c'est peut-être 10 % aujourd'hui, je ne sais pas, dans le temps, mais c'était 8 % mettons, de matière grasse. Alors, lui, il a dit, pour être légal, pour avoir le droit de marquer crème glacée, on va mettre notre vous connaissez la napolitaine? Trois saveurs, fraise, chocolat, vanille. Alors, regardez ça sur son semaine. Il y en a, la compétition, a décidé d'en faire, hey, écoute, il y a une façon de réduire les coûts, parce que ça coûte tellement cher, la matière grasse, le beurre, ça coûte cher. Ils ont dit, peut-être qu'on pourrait faire, puis ils l'ont fait. Ils ont dit, on va mettre la vanille, 8 grammes de matière grasse, mais les fraises et le chocolat, on va descendre. Ça réduit nos coûts de production, on pourra la vendre moins cher, on a plus de commandes, on va faire plus d'argent. Hey, écoute, ta crème glacée, là. Il y a même des crocheries qui se font dans la crème glacée. Tu sais, je veux dire, où est-ce que tu vas aller, là? Ça va jusqu'où? La crème glacée. Il y a des affaires illégales qui se font, même dans l'industrie de la crème glacée. Et sais-tu quoi? Dieu voit tout. Pensez-y, là. Dieu voit absolument tout. Même la napolitaine. Tout. Et ça, c'était le point que Dieu a voulu donner à Zacharie. Parce qu'à un moment donné, vois-tu, Zacharie faisait partie de la première génération qui est retournée après les 70 ans en exil à Babylone pour reconstruire Jérusalem et reconstruire Israël. Il faisait partie des premiers, des pionniers qui allaient reconstruire la ville. Tout était à terre parce que les Babyloniens étaient venus, avaient tout détruit les murs qui étaient censés de protéger la ville. Et ils ont détruit les murs, détruit le temple, il fallait reconstruire le temple et tout ça. Et là, tu ne voulais pas retomber dans le péché parce que c'était le péché, finalement, au fond, qui était responsable de t'avoir fait envoyer dans l'exil pendant 70 ans parce que le peuple était dans l'idolâtrie et les Juifs avaient abandonné Dieu et Dieu avait envoyé des prophètes et des prophètes et des prophètes pour les rappeler à revenir à lui, se repentir. Les gens n'écoutaient pas. Alors, finalement, Dieu est obligé de les châtier pour qu'ils comprennent. Le message était compris. Mais là, ils ne voulaient certainement pas retomber dans le péché puis faire la même gaffe pour qu'on se retrouve encore jugé. Mais là, Zacharie, il est pogné parce qu'il n'y a pas assez de monde pour être juge. Il n'y avait pas de juge. Il n'y a pas eu de juge jusqu'à temps que l'extérance arrive. Et il n'y avait pas de juge pour exercer le contrôle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de. Que ce soit sain, que la construction, ça soit clean, qu'il n'y ait pas de vol puis de fraude et tout ça. Mais il n'y a pas de staff. Il n'y a pas assez de monde pour assurer que ça soit fait. Alors Dieu envoie une vision à Zacharie pour lui dire ne t'en fais même pas. Moi, je vois tout. Alors ce que Dieu va faire, Dieu, regarde, on va vous faire lire la vision, hein, on va l'expliquer après. Regardez bien ça. J'ai de nouveau levé les yeux. Et j'ai vu, ça c'est Zacharie qui parle, puis il voit une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une immense bannière dans le ciel. Vous savez ce qu'on voit sur l'autoroute, là? Des gros panneaux publicitaires immenses de 30 pieds par 15 pieds. Là, Zacharie voit un gros panneau publicitaire dans le ciel. Il voit ça. Puis qu'est-ce qu'on voit dessus? Il dit, j'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau de manuscrits volé. Un gros méchant rouleau, regarde la grandeur. Il m'a dit, que vois-tu? Il répond, je vois un rouleau qui vole. Écoute, 10 mètres de long, là, on parle de 30 pieds là, par 5 pieds de large, 15 pieds, 30 par 15, un méchant panneau. Puis Dieu est en train de dire, tu sais quoi qu'il y a là-dessus? Les péchés. Et toute la liste là, des péchés, je vois tout. Toute la liste des péchés, puis tout ça. Le manuscrit, il est écrit d'un bord au complet, écrit de l'autre bord au complet, c'est plein, puis il y a des jugements là-dessus. Puis Dieu est en train de dire, je vais m'en occuper, moi, du péché. Et il dit, et ça continue, verset 3, il dit, c'est la malédiction qui se propage sur tout le pays, d'après une face, du rouleau, tout voleur sera chassé d'ici, d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici, je la propage, je la déclare, dit l'Éternel, le maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Mais toi, le gros rouleau se promène, là, puis il se rentre chez vous. Là. Puis il regarde tes péchés. Là. Tu sais, vous souvenez, je ne sais pas, est-ce que vous êtes allé à Wildwood déjà dans votre vie? Non? Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui passe à Wildwood, si tu t'en vas te baigner, tu es sur le bord de la mer, si tu t'en vas te baigner, là tu as un avion qui se promène, là, puis tu as des bannières comme ça tous les matins. Tous les matins, tu t'en vas te baigner, tu as ça, cet avion-là qui se promène, une grosse bannière, puis c'est écrit « All you can eat, 7.95. Go to restaurant. Va à tel restaurant sur la rue, je ne sais pas trop, Main et tout ça, tu vas voir, c'est pas cher. » Mais là, Dieu est en train de dire, moi, ce que je vais faire, je vois absolument tout, là, puis tu vois, tu n'auras pas le choix d'arriver à la conclusion que je suis pécheur. Je vais tout te montrer, là. Tu vas voir une grosse bannière. Il n'y aurait même pas d'avion, là. Ça se promène, là. Regarde. Tu vois tout, là. Vois-tu, là? Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Et il dit, je vais le juger aussi. Je vais le juger. Savez-vous pourquoi c'est tellement important de comprendre ce que la Bible est en train d'enseigner sur la colère de Dieu? Parce que comprendre la vérité sur la colère de Dieu me permet d'apprécier plus en profondeur la vérité sur la grâce de Dieu. Sans ça, ça devient une grâce bon marché, cheap. Plus je comprends à quel point Dieu m'a aimé, et Dieu a déversé toute sa colère que mon péché a provoqué en lui, plus je comprends sa grâce. Et c'est la clé, mes amis, on est en train là, de faire un pas en avant, c'est la clé pour bien gérer notre colère et tout péché. Le mensonge, le vol, comment je communique, l'amertume et tout ça, ça règle tout ça, là. Et c'est le point que Paul va dire au verset 32. Au verset 32, voici ce qu'il dit. Il dit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Comment? » Vois-tu ce qu'est-ce qu'il est en train de faire, Paul? Il met l'Évangile ici. Vois-tu? « Comment? » « Comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Et là, on parle d'une autre doctrine bien importante dans les Écritures qu'on appelle la substitution, où Jésus s'est substitué à notre place à la croix. Par exemple, dans Romains 5, on va développer cette question-là. Dans Romains 5, Paul va dire, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » 1 Thessaloniciens 1,10 dit essentiellement la même chose. Il dit, Jésus nous délivre de la colère à venir. Alors, les Écritures vont prendre un autre mot aussi. C'est une autre doctrine qu'on voit dans les Écritures. Ça s'appelle un gros mot, mais propitiation. Et cela signifie simplement que la colère de Dieu contre le péché a été satisfaite. Elle est satisfaite. Dieu est satisfait avec le sacrifice de Jésus-Christ. Sa colère et sa justice ont été pleinement satisfaites. Alors, voici ce dont j'ai besoin de me rappeler lorsque moi, je suis en colère. Je dois me rappeler qui je suis. Je dois me rappeler ce que Dieu représente pour moi et tout ce qu'il a fait pour moi. Et cela va tranquillement faire fondre, à mesure que je me répète ce que Jésus-Christ a fait pour moi, tranquillement, ça va faire fondre la colère que j'ai dans mon cœur. Parce que nous voulons louer Dieu, qu'il s'est servi de la colère et qu'il a redirigé sa colère pour me sauver. Je ne peux faire le juge. Je ne peux pas rester amer. Je vais pardonner celui qui m'a fait du mal parce que j'ai tellement fait de mal au Seigneur. Voici un exemple. Comment on porte le linge neuf. Voilà comment on pense. Lorsque Paul dit de ne pas se coucher sur la colère, bien des couples pensent qu'il faut absolument régler nos litiges entre nous autres avant de dormir. J'ai entendu bien des couples là, qui se chicanaient et tout ça, puis ils me disaient, « Ah, mon mari voulait absolument qu'on règle ça tout de suite, avant d'aller se coucher. » Mais dans le fond, ce qu'il était en train de nous dire, c'est qu'il voulait avoir raison. Il dit, « Va pas te coucher tout de suite, il faut régler ça. » La Bible dit, « faut régler nos problèmes avant qu'on aille se coucher. » Fait que ça là, c'est un principe de couple, d'avoir des bons couples, il faut tout régler ça. Mais dans le fond, le mari ou la femme, tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir raison avant d'aller se coucher, puis que la femme ou l'homme dit, « Ben, dans le fond, tu avais raison. » Fait que là, on s'en va se coucher. Mais sans savoir une bonne. Veux-tu en savoir une bonne? Ce passage-là, dans le contexte immédiat, ça fait des années que j'entends ça, c'est des bons principes en passant. Hey, c'est super, c'est grave de régler tes problèmes, tes litiges avant d'aller coucher. Mais des fois, honnêtement, moi je pense que t'es mieux d'aller coucher. Parce que demain matin, avec un beau cappuccino, peut-être tu vas être plus calme. Fait que peut-être que le meilleur conseil que je pourrais te donner pour un litige dans le couple, c'est « allez donc vous coucher. Vous allez plus calme demain matin, tout ça, tu sais. » C'est même pas ça que ça parle. Paul n'est pas en train de donner un cours de couple. Dans le contexte immédiat, et ce dont Paul est en train de parler ici, c'est, veux-tu que je te montre une solution pour régler tes problèmes de couple avant d'aller coucher tout de suite ce soir? Il dit bien simple, prêche-toi, parle-toi, rappelle-toi de l'Évangile. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi, à quel point il t'a pardonné, puis laisse-moi te dire, tu vas être couché tranquille. Comme un bon petit gars, bien tranquille. Ça met les choses en perspective. Ça, c'est le contexte. C'est ça que Paul est en train de dire. Prêche-toi. Oui, sors dehors, va te prendre une marche. Laisse ton conjoint tranquille là. Arrête de chicaner avec. Va dehors, prendre une marche et prêche-toi. Hé, mon Dieu. Pense à tes péchés. Pense à tous tes péchés que tu as faits dans ta vie, puis peut-être même tu ne te souviens même plus. Pense à tout ça, le mal que tu as fait dans ta vie, puis comment tu as péché contre Dieu, puis bon sang, tu mérites tellement son jugement. Puis il a décidé de te pardonner, pas d'amertume envers toi. Il a décidé d'oublier tout ça, mettre ça de côté, puis ah, comment est-ce qu'il t'aime. Hé, il m'a dit une affaire, là, tu vas venir chez vous, là. Tu vas vouloir arrêter à la boutique, acheter des fleurs, là, puis ça, pas de bon sens. Tu vas dire, chérie, ah, mon ami qu'on s'aime, hein? Tu vas pardonner, tu n'auras pas de problème à pardonner, parce que tu vas réaliser à quel point Dieu t'a pardonné. Vois-tu ce que ça veut dire porter son linge neuf? Vois-tu comment un enfant de Dieu, c'est vraiment différent? Vois-tu la motivation, l'inspiration qu'on a à changer et donner de plus en plus comme Jésus-Christ? Vois-tu comment ça change tout? Ça change nos relations, ça a un impact. Hey, mon ami, verset 32, soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Hey, je peux pardonner celui qui m'a fait du mal. Avant d'aller me coucher, je peux absolument. Pourquoi? Parce que, sais-tu quoi? J'en ai-tu fait des bêtises dans ma vie? Puis aujourd'hui, il y a une grosse banderole au ciel en ce moment. Ça se promène partout. Puis ça me dit, hey, je suis pardonné, moi. Je suis pardonné. Tu peux-tu aller dormir tranquille, tu penses? Moi, là, je suis pardonné. Parce que Dieu m'a pardonné. Il a choisi d'oublier mes péchés. Dieu est omniscient, il se souvient de tout, tout ça. Mais il a choisi de ne pas remettre ça sur la table en avant. Là, c'est fini, c'est en arrière. Il a dit, moi, je vais jeter tes péchés loin, loin dans le fond de la mer. Là. 35 000 pieds le fond de la mer, c'est creuse. Dans d'autres mots, tu ne verras pas. Tu ne verras pas, tu te promènes juste à la rivière d'Outaouais, mais tu ne vois même pas deux pieds. Imagine-toi, il va jeter ça en bas de la mer. Fond. Là, je prends la décision de ne plus jamais ramener ça sur le tapis, ce que tu m'as fait. C'est comme ça que Dieu t'a pardonné. Je vais donc faire la même chose. Oui, on m'a fait du mal. Absolument. C'est vrai. Quelqu'un m'a fait du mal. Mais je choisis de ne pas ramener ça en avant, sur la table. Je vais mettre ça en arrière de moi. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. Ça fait fondre les cœurs. Martin Lord Jones donne une belle comparaison. Il dit, écoutez, il dit, si Jésus est un agneau, pourquoi je serais un lion en train de dévorer tout le monde autour de moi? Si l'Esprit-Saint est comparé à une colombe, pourquoi je serais un oiseau de proie en train d'arracher ma victime puis de déchirer ma victime? Nous pouvons changer car Jésus a pris sur lui la colère qu'on méritait et nous sommes pardonnés. Maintenant, une grosse motivation aussi. Paul nous donne une énorme motivation, une grande inspiration pour changer. C'est bizarre, quand tu commences à lire le passage verset 25 à 32, tu peux te demander, dis, mon ami, ça parle d'un paquet d'affaires, ça parle de vol, mensonge. Mon ami, là, c'est comme une mosaïque là, avec 1000 morceaux. Là, ça parle d'un paquet d'affaires. Là. Puis en plein milieu, il y a quelque chose qui ne semble pas fitter avec le reste. Plein milieu, là, c'est comme une mosaïque toute bleue. Là. Il y a 1000 morceaux, il y a 999 morceaux qui sont bleus, puis il y en a une qui est jaune. Ça frappe. Eh bien, Paul va mettre une pièce jaune en plein milieu de tout ça. Ça, c'est le verset 30. Et il dit au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. » Est-ce que c'est par hasard? Par hasard que ça tombe de même. Là, tu sais que Paul n'était pas trop sûr comment finir sa phrase. Il dit, « Tiens, je vais parler du Saint-Esprit, juste comme ça. » Absolument pas. C'est la clé pour comprendre tout ce qui se passe ici. Là. Une autre motivation. Aussi la clé pour changer. C'est la clé, c'est exactement là où se distingue l'Évangile de tous les autres systèmes d'éthique, les religions, tout ce qu'on peut avoir dans le monde. Le chrétien ne veut pas mentir, ni voler. Il ne veut pas communiquer durement avec les autres pour les blesser, juste parce que c'est mal, mais bien parce que ces choses attristent une personne qui a tellement fait pour moi. Le Saint-Esprit est une personne. On peut l'attrister. Si on comprend que le Saint-Esprit est une personne qui éprouve de la joie ou de la tristesse selon comment j'obéis ou pas, comment ses enfants vont agir, cela peut m'aider à faire tout un méchant bon dans ma vie spirituelle. Vrai? Tout d'abord, on comprend mieux à quel point on a été aimé. Tout comme on peut, par exemple, éprouver de la tristesse puis de la joie quand on voit nos propres enfants. Un enfant qui réussit, mon ami, tu l'applaudis, t'es son cheerleader, tu te réjouis avec lui, et en même temps, lorsque ton enfant fait des bêtises, tu as cette tristesse dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu as de l'amour pour lui. Alors, on peut comprendre ça. C'est son amour qui l'attriste. Si nous réalisons à quel point notre désobéissance attriste le Saint-Esprit, cela peut certainement nous inspirer à marcher dans la sainteté. Aucun enfant de Dieu ne veut vraiment attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, et quand on pêche, on l'attriste. Il a tellement fait pour nous, il nous a scellés, il nous a pardonnés. Son œuvre et son ministère attirent notre cœur à lui, surtout quand on pense à tout ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Par exemple, il nous a baptisés, il nous a donné une nouvelle famille, l'Église. Moi, je peux aller n'importe où dans le monde entier, aller dans une église, puis avoir des frères et des sœurs, même si je ne parle même pas dans la même langue. Ma fille, comme je l'ai déjà dit, est allée en Ukraine, mais on est allé à l'autre bout de la terre. Puis, c'était des frères et des sœurs, ils ont mangé ensemble, c'était super. Une famille. On a une nouvelle famille. L'Église de Jésus-Christ, des frères et des sœurs. Il nous a baptisés dans le Saint-Esprit, qui veut dire qu'il nous a placés dans le nouveau corps de Christ, qui est l'Église. Il nous a scellés. Ça veut dire qu'il a fait de nous autres qu'on lui appartient. Il nous a adoptés. Il demeure en nous. Il nous conseille. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous dirige, nous conduit, nous instruit, nous console. Il a fait de nous son temple. Il nous donne des dons afin qu'on puisse exercer des dons les uns envers les autres pour s'entraider, s'encourager, se motiver. Il illumine nos cœurs, il nous montre comment prier, il communique nos souffrances au Père, il intercède même pour nous. Tu sais, tu fais partie de la liste de prières, de requêtes de prières, là, du Saint-Esprit. Regarde, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait pour nous autres. Maintenant que je suis en Jésus, je suis saint, béni, apprécié, sauvé, réconcilié, encouragé, entendu, doué, je suis nouveau et je suis pardonné. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça que Dieu a fait pour toi. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es venu à Jésus-Christ pour recevoir son salut, voilà ce qu'il a fait pour toi. Et si tu n'as pas encore décidé de venir à Jésus-Christ, là, ce serait vraiment un bon moment de le faire. Vois-tu ce que tu manques? Vois-tu ce que la Bible dit que tu as en Jésus-Christ? Il est inconcevable de vouloir attrister le Saint-Esprit. Ce que Paul est en train de nous dire, le message de Paul, dans tout le passage ici, c'est qu'au lieu d'attrister le Saint-Esprit, fais-le sourire. Fais sourire Dieu. Pourquoi tu voudrais attrister le Saint-Esprit? Fais sourire Dieu. Mais là, tu vas me dire, comment on fait ça? Paul l'a dit, il montre ce qui attriste le Saint-Esprit, ce qui fait sourire Dieu. Quand tu dis la vérité, là, au lieu du mensonge, quand tu fais ce choix-là, tu t'en fais sourire Dieu. Quand tu travailles honnêtement, quand tu cesses là, de faire des choses en dessous de la table, tu es en train de faire sourire Dieu. Quand tu es généreux, peut-être tu vas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Quand tu donnes des bonnes paroles, des paroles édifiantes, puis tu agis avec bonté, puis de compassion, puis tu pardonnes. Là, tu fais sourire Dieu. Amen.